18h41 et vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, et nous sommes donc toujours avec Marc Aubrégon, Rémi Carlu, le président de Radio Courtoisie, Pierre-Alexandre Bouclet, qui nous accueille donc chez lui, et Emmanuel Rechberg, journaliste et auteur, co-auteur avec Vendrut Gerpel, je rappelle, du livre Le vrai coup du progressisme aux éditions de l'Artilleur. Et donc, en effet, vous l'aurez compris, un livre qui traite de combien vous coûte la gauche, et autant vous dire que ça fait un paquet d'oseille. Alors, cette émission, cette seconde partie d'émission va être consacrée à toutes les révélations sur l'écosystème associatif de gauche qui défiscalise en veux-tu, en voilà, en plus de toucher des subventions et qui, d'après nos petites trouvailles, ne devrait pas défiscaliser autant, voire même pas du tout. Je vous propose, pour ceux qui n'ont pas tout le scénario en tête, de revenir à l'origine avec vous, Pierre-Alexandre Bouclet, parce que tout part, comme toutes les bonnes idées,
de libération.
Et de libération.
C'est exactement. Alors en fait, en avril dernier, Libération m'a contacté pour me poser des questions à la manière des enquêteurs de police sur le statut d'intérêt général de Radio Courtoisie. Et cela se passait dans le cadre d'une enquête beaucoup plus vaste sur des associations de droite. Donc nous, le samedi, donc ils m'ont contacté le jeudi, je crois, et en me donnant 48 heures pour répondre. Et le samedi, leur papier sortait. Et donc, il y avait une grande une où figurait Radio Courtoisie, mais aussi Némésis, l'Institut Iliade, Academia Christiana, et puis une dizaine d'associations de droite, dont Libération questionnait, comme ils disent, le statut d'intérêt général et le droit, surtout, d'émettre des reçus fiscaux. Et ils expliquaient que c'était un dispositif légal, mais qu'il ne devrait pas être normal que des associations prônant la haine, l'exclusion, machin, machin,
ah, je patin cite, couffin. Malgré une opacité quasi généralisée des millions d'euros finant chaque année, une mouvance raciste et violente.
Absolument.
Et vous savez combien ça fait un million, Larmina?
Bravo.
Et donc, ces questions avaient un but qui était ensuite de saisir un député LFI à la commission des finances, qui s'appelle Éric Coquerel, pour lui demander ce qu'il comptait faire. Donc c'est une logique assez classique dans ces enquêtes. Et l'objectif était clairement de faire en sorte que des associations de droite ne puissent plus bénéficier du droit de se réclamer de l'intérêt général, donc d'émettre des reçus fiscaux lorsqu'ils bénéficient d'un don. C'est-à-dire, en gros, quand un auditeur fait un don à Radio Courtoisie ou à je ne sais quelle autre association d'intérêt général, s'il fait un don de 100 euros, il peut obtenir un reçu fiscal d'un montant équivalent à 66% de son don, c'est-à-dire que s'il fait un don de 100 euros, il n'en paye en réalité que 34, et il en déduit 66 de ses impôts, et ça dans la limite de 20% de son revenu imposable. Voilà, on entre dans des considérations, mais en gros c'est ça.
Donc 66 euros, c'est une recette en moins perçue par l'État.
Par l'État, c'est ça. Mais il y a deux façons, en gros, d'utiliser les impôts en France. La subvention, dont bénéficie essentiellement la gauche, c'est-à-dire des collectivités publiques décident d'allouer de manière arbitraire l'argent des impôts ou de leur collectivité, du budget dont ils sont responsables, à des acteurs associatifs de leur choix. Par exemple, la mairie de Paris va donner à des associations LGBT ou à de défense des immigrés illégaux, par exemple. Et sinon, on a le don contre reçu fiscal qui est fait par un contribuable lambda, vous, moi, un auditeur de Radio Courtoisie. Et ça, c'est un peu la vision de droite, c'est-à-dire au sens où c'est le contribuable qui choisit lui-même d'affecter une partie de ses impôts à une cause qui lui est chère. Et ça, ça insupporte la gauche. Parce qu'en fait, l'essentiel des assos de droite n'ont aucune subvention. C'est le cas de Radio Courtoisie, par exemple. Nous n'avons que les dons de nos auditeurs et donc de gens qui bénéficient d'une réduction d'impôt lorsqu'ils nous font un don. La gauche voudrait casser ce mécanisme pour faire en sorte que nous n'ayons plus aucune ressource et qu'on crève, pour dire les choses de manière directe. Alors on s'est dit, tiens, c'est quand même inquiétant. Et puis surtout, c'est devenu très inquiétant quand Éric Coquerel, député LFI à la Commission des Finances, a dit « c'est effectivement très inquiétant et on va faire une mission pour étudier les conditions avec lesquelles ces associations reçoivent des fonds, et surtout, on va essayer de changer le droit pour que ce ne soit plus possible à l'avenir. » Et il a saisi le gouvernement en disant « attention, il y a des associations qui prônent la haine, l'exclusion, et qui bénéficient d'un dispositif légal, mais ce n'est pas normal, il faut que ça change. » Et le gouvernement égal à lui-même, donc c'est Le Cornu et le ministre des Comptes Publics,
Amiel,
ainsi que Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, ont dit qu'effectivement, ils allaient y réfléchir très fort pour faire changer les choses. Et là, on s'est dit, attention, parce que là, on est dans une circonstance où ils peuvent vraiment aller au bout du bout de leur logique, quand on voit ce qui arrive, ce qui est arrivé à C8, quand on voit ce qui pourrait arriver à CNews, et quand on voit ce qu'ils font avec Marine Le Pen, maintenant avec Jordan Bardella, on sent qu'on est dans un climat de tension extrême et qu'ils sont tout à fait capables d'aller au bout de leur logique pour détruire un écosystème de droite qui les dérange.
Et surtout en année présidentielle.
Surtout en année présidentielle. Et là, on s'est dit, voilà, il faut absolument qu'on réagisse. Et je pense que si on cherche bien, nous verrons que les associations de gauche sont beaucoup plus en dehors des clous que certaines associations de droite. Et on va leur montrer qu'ils n'ont pas intérêt à essayer de modifier le droit, parce que sinon, ils vont devoir balayer devant leur porte d'abord. Et c'est là où je me suis permis d'appeler le camarade Arthur de Vatrigan, et puis quelques autres, et on s'est dit, en fait, il faut absolument qu'on unisse nos forces, parce que seuls, nous, objectivement, nous n'avons pas les moyens de financer nous-mêmes des grosses enquêtes comme ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'efforts, et donc on a réuni des gens, Emmanuel ici présent, et quelques autres, donc avec l'Incorrect, avec le Boulevard Voltaire, avec l'OGIM, et puis ensuite, tout un périmètre de médias amis, et qui pouvaient être intéressés par ce sujet, qui ont accepté de nous relayer.
Comme Valeurs Actuelles.
Comme Valeurs Actuelles, comme CNews, comme Europe 1. Et puis tout un tas d'influenceurs aussi, qu'il faut remercier quand même sur les réseaux sociaux, des gens comme F2 Souche et beaucoup d'autres. Et là, on s'est dit, voilà, il faut vraiment taper, et taper très très fort. Et donc, on a épluché 300 associations. On en a retenu 50 qui correspondaient à un certain nombre de critères où manifestement on pouvait supposer que ces associations étaient hors des clous et défiscalisées de manière irrégulière, ou en tout cas qu'on avait le droit de se poser des questions sur la légalité de leur démarche. Il y en a pour lesquelles c'était, disons, feu orange, et d'autres pour lesquelles c'était vraiment le feu rouge. Et on avait des bonnes convictions pour faire évoluer les choses. Et ben voilà, c'est ce que nous avons fait. Et donc,
c'est ce qu'on dévoile donc depuis 10 jours maintenant. Et donc vous, Emmanuel Rechberg, je rappelle, c'est quelque chose qui vous plaît, d'enquêter sur les dépenses de l'État, puisque je rappelle votre livre « Le coût du vrai coût du progressisme ». C'est votre dada, autant vous dire que les associations vous craignent, et c'est pourquoi, pour ceux qui regardent l'émission sur YouTube, on ne voit pas votre tronche, parce que, simplement, quand vous vous avez fouillé un peu chez des gens qui ne voudraient pas qu'on fouille, autant qu'on ne vous reconnaisse pas. Et donc, cher Emmanuel, vous avez été parmi les journalistes qui ont le plus travaillé sur ce sujet, vous avez pas désigné sur votre temps pour éplucher ces plus de 300 associations. Faites-nous d'abord peut-être un panorama, une vision, une vue un peu globale de tout ce que vous avez trouvé dans cet écosystème qui n'est pas de droite.
Eh bien, on en trouve pour tous les goûts. Donc aujourd'hui, on parle d'amour, on parle d'amour de la drogue, d'amour des racisés, des marginaux, des journaux de gauche et des reçus fiscaux. Et il y en a, à gauche, il y en a vraiment pour tous les goûts. On va rentrer un peu dans le détail. Sur les 55 associations qu'on a retenues, elles divergent à titre parfois massivement, parfois simplement sur un des trois critères principaux qui déterminent l'intérêt général. Le principal métier des associations de gauche, dans le fond, dès qu'on creuse un peu, c'est de faire du plaidoyer, du lobbying ou de la politique, alors qu'elles ne sont pas des partis. Et ça n'est pas d'intérêt général. Il y a une jurisprudence constante là-dessus. Et elles s'en moquent complètement. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, on peut parler des SOS Racisme par exemple, pourquoi une association qui est tellement en dehors des clous existe toujours et n'a reçu aucune sanction? C'est vraiment étonnant. Et alors évidemment, nous on est des journalistes, il faut qu'on respecte la présomption d'innocence.
Ce que je voulais dire, voilà, qui paraît hors des clous.
Voilà. Donc nous, ça nous paraît hors des clous. On a quand même travaillé avec des avocats, plusieurs, qui ont confirmé ou précisé certaines de nos questions et qui parfois nous ont adressé des notes en disant « mais oui, il y a des vrais sujets ». Et il y a tellement vrais sujets que parfois, il y a des hommes politiques qui se sont emparés de ces sujets-là et qui ont écrit à la justice en disant « mais qu'est-ce que vous faites ?» Oui, on pense notamment au sénateur Ravier vis-à-vis de la DMD, justement, qui est complètement en découvre.
Et à la suite de notre enquête, le député Mathias Renaud, qui est lui aussi à la commission des finances et qui a été alerté par nos travaux et qui a lui aussi, comme Éric Coquerel, mais dans un autre couloir, alerté le ministre des Comptes publics et le gouvernement en expliquant qu'il y avait matière à s'inquiéter de manière grave face à nos révélations.
Et notamment, c'était sur l'Institut de la Boétie, vous savez, le laboratoire d'idées qui reçoit beaucoup de dons, laboratoire d'idées, donc il peut être de droite, il peut être de gauche, il peut être du centre, mais il ne peut pas bosser exclusivement pour un parti.
C'est ça.
Or qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il bosse exclusivement pour la France Insoumise, à tel point que ses deux vice-présidents...
A priori, c'est ce qu'on peut soupçonner.
Ce qu'on soupçonne, voilà. Grandement, sachant déjà que ces deux vice-présidents sont et Jean-Luc Mélenchon et Clémence Guettet. Bon, voilà. Donc, en effet, le député Mathias Renaud, la commission des finances, donc, qui siège avec le camarade Coquerel, a interpellé le ministre. Mais pour l'instant, il n'a toujours pas répondu, le ministre.
Non, il n'a pas répondu.
C'est étonnant. C'est quand c'est Coquerel qui demande, alors là, t'as le gouvernement, le cornu,
le doigt sur le pantalon,
on y va.
Pantalon,
hop. Et là, rien pour l'instant. Mais je vous laisse, cher Emmanuel, continuer donc sur ce panorama de cet écosystème associatif.
Absolument. Donc on a eu des moments délicieux pour dresser le hit parade des associations qui nous posent le plus de questions. Et à tout seigneur, tout honneur, il faut commencer par SOS Racisme, qui existe depuis plus de 40 ans ou 50 ans même, qui perçoit des dons et qui émet des reçus fiscaux. Elle le fait encore, on a vérifié, alors qu'il semble que là, elle n'ait aucun titre pour le faire.
C'est-à-dire ?
Nous n'avons trouvé dans aucune base de données... Mention, SOS Racisme se décrit parfois comme reconnu d'utilité publique.
Oui. Alors c'est différent de l'intérêt général. Encore,
reconnu d'utilité publique, c'est le niveau du dessus, il faut un décret passé en Conseil d'État. Nous n'avons trouvé aucune trace, nulle part.
Donc si c'est un décret, normalement il y a une trace.
Normalement il y a une trace. Surtout que on trouve trace des décrets qui sont archivés, même antérieurs à 1982. Hein, ou 84, je ne sais plus.
84.
Et là, vraiment aucune trace. La LDH, on a trouvé rien. Et il n'y a pas que nous qui avons cherché. On s'est mis à plusieurs journalistes, plusieurs avocats ont cherché. On a mis des IA sur le coup. Rien, zéro trace. On a juste trouvé mention d'une réponse d'un ministre à un député qui lui avait dit « ouais ». Et qui avait dit la LDH, qui parlait d'associations reconnues d'utilité publique, virgule, comme la LDH ou SOS Racisme.
D'accord.
C'est le seul titre qu'ils aient, mais qui ne suffit pas.
Donc un verbatim.
Un verbatim, qui ne suffit pas du tout. Bon, c'est des gens qui dépendent totalement de... Parce qu'ils reçoivent des dons, mais pas beaucoup. Ils dépendent quand même totalement de l'argent public, de subventions. C'est de l'ordre de... C'est entre 500 000 et 1 million par an depuis des années. Or, il faut des... quand vous touchez plus de 153 000 euros, eh ben, il faut déposer ses comptes. Devinez, il ne les dépose jamais. Au bout d'un moment, il y a quand même une amende qui doit être mise en place.
Le compte déposé pour la dernière fois, donc accessible...
C'est il y a 15 ans.
2009.
Ouais.
Donc depuis 2010 compris... Les
Rien.
Comptes ne sont pas déposés.
Rien.
Donc, les informations que nous avons sont les informations qui datent de 2009, étant donné que c'est des comptes qui sont publics.
C'est ça.
Or, ils sont dans l'obligation, et là, ce n'est pas une présomption d'innocence, ils sont obligés de déposer leur compte chaque année, ce qu'ils ne font pas depuis 15 ans.
Oui, et l'État n'a jamais mis d'amende. Alors qu'ils ont quand même une exposition publique, qu'ils passent partout, qu'on les voit.
Et qu'ils touchent des subventions.
Et qu'ils continuent de toucher. Quand vous touchez des sous, plus de 153 000, il faut déposer vos comptes. C'est une obligation légale, assujettie à une amende. Rien.
On a une idée du pourcentage des subventions sur les... sur leur budget, en tout cas le budget de 2009.
En 2009, c'était 64%.
64%, donc pas de dons, ouais. Hein, de subventions directes.
Subventions, oui. Alors, ce qu'on trouve, en revanche, on sait qu'ils continuent d'en trouver, puisqu'on trouve dans les bases de données des ministères, notamment justice, notamment intérieur, des traces des subventions qui ont été versées depuis 2009. Donc on sait qu'ils continuent de toucher, parce que les ministères le disent. Mais eux, ils disent rien. Absolument rien. Et ça, c'est pas bien, c'est pas
alors,
bien du tout.
Et donc, il y a budget, on prend leur budget, subvention, des dons, donc défiscalisés, puisqu'ils se le disent, alors eux, ils déclarent d'utilité publique, bon, pas de décret, on trouve pas de traces, mais bon, ils pourraient se dire d'intérêt général, donc ils peuvent défiscaliser des dons. Mais ils ont aussi, je suppose, des adhérents, SOS Racisme, grande association portée par Mitterrand, Jack Lang, tout team. Il devrait avoir des millions d'adhérents depuis. En plus, une cause aussi noble que l'antiracisme, ça doit rapporter de l'adhérent.
Ils en ont à peine quelques centaines. C'est pas du tout une association populaire, SOS Racisme, mais pas du tout. L'essentiel de son activité, c'est de réaliser des formations dans les ministères, donc diffuser la bonne parole auprès de la fonction publique, et puis d'attaquer les autres.
Et c'est vrai que quand on touche les subventions publiques, c'est bien dans les ministères pour dire qu'ils sont importants, pour ensuite demander de l'argent, c'est plus facile.
Oui, d'autant plus qu'SOS Racisme, il a aussi un titre de gloire. C'est sur le podium des associations qui attaquent l'État, c'est le numéro 2. C'est l'une des trois associations qui attaquent le plus l'État.
L'État.
Ouais.
Donc l'État finance son suicide.
C'est ça. Depuis
c'est,
30 ou 40
venir,
ans.
C'est l'actu, c'est bien. Et est-ce qu'on sait, parce que bon, ils ont de l'argent, plus de 500, 600, 700 000 euros, estimer.
Ils doivent tourner 1 million par an, je pense.
Bon, 1 million, bon,
mais 1 million
dites...
avec beaucoup de subventions, donc c'est ça.
Avec une majorité de subventions.
Alors là, si, Arthur Vatrian, j'ai quelques critères de l'intérêt public, si ça peut vous intéresser.
Intérêt général.
Alors, l'intérêt général et l'intérêt public.
Ah oui, ça, c'est intéressant.
L'UP, c'est au-dessus.
SOS Racisme se dit d'intérêt général. Donc il faut poursuivre un but d'intérêt général, mais avec une surface assurant vraiment un intérêt pour la collectivité nationale, c'est-à-dire que, par exemple, il faut la défense de la francophonie, par exemple, comme le fait Radio Courtoisie, pourrait être d'utilité publique.
Défendre l'antiracisme, attaquer le racisme, ça peut rentrer dans ce critère-là.
Ensuite, il faut un nombre significatif d'adhérents. C'est là où ça pourrait être embêtant, parce qu'il faut que le nombre d'adhérents volontaire, payant, soit suffisamment important pour traduire un réel ancrage dans la communauté nationale.
Alors là, je crois que, Emmanuel, vous aviez un chiffre en 2009 sur les adhésions.
Oui, ils ont, sur un budget de plus de 500 000, les adhésions, c'est même pas 19 000 euros.
Alors là, bon, ça c'est gênant.
Donc c'est-à-dire que ça rentre pas dans ce critère-là.
Alors, si c'est exact, c'est embêtant.
Et juste une question avant de vous continuer, ouais. Ce sont des critères cumulatifs?
Oui, il faut remplir
d'accord.
quand même
c'est
l'essentiel.
C'est pas c'est un ou deux dans le tas, il faut tous les avoir.
Non, il faut les avoir.
D'accord.
Ensuite, il faut avoir donc une gouvernance démocratique avec des statuts conformes. Bon, ça, j'imagine qu'ils les ont, sauf que s'ils n'ont même s'ils n'ont pas le rescrit qui les permet de se revendiquer de l'utilité publique, c'est peut-être un problème. Je sais que dans l'intérêt général, on a le droit. On a la possibilité, en tout cas, de se déclarer soi-même, de s'auto-déclarer d'intérêt général.
Oui.
J'avoue ne pas savoir si c'est vrai pour l'utilité publique.
Non, c'est vraiment un décret.
Alors, dans ce cas-là, ça peut... Là aussi, ça pourrait être un problème. Ensuite, il faut une solidité financière avec des ressources personnelles à l'association durable et suffisante pour assurer la continuité de l'activité. Donc, sans forcément avoir de subvention.
Et alors que là, est-ce qu'on a eu une information sur, même avec les subventions, est-ce que c'est une association qui ne perd pas trop d'argent, qui est plutôt à l'équilibre? On a des informations là-dessus?
Non, ils ont des capitaux propres négatifs depuis des années. Normalement, n'importe quelle entreprise en France, quand elle a des capitaux propres négatifs au bout de 2 ans, vous allez au tribunal demain matin, vous dites « je veux la dissolution de cette entreprise » et c'est quasi automatique.
D'accord. Donc alors là, je coche la troisième case où on peut...
du critère qui ne rentre pas vraiment.
Ben, s'il est exact qu'ils sont en négatif, normalement, ils ne peuvent pas être d'utilité publique. Et après, c'est tout. C'est, le reste, c'est le fait d'avoir une surface nationale suffisante. On peut considérer que l'antiracisme...
Et moi, il y a une chose que je ne comprends pas.
Le procureur.
Éclairez-moi, cher Emmanuel. C'est, avec toutes les subventions qu'ils reçoivent, c'est-à-dire une grande majorité de leur budget, pourquoi, depuis qu'ils ne déposent pas les comptes, il n'y a pas un ministre ou un député ou un sénateur qui s'est posé la question, qui a dit « Oula, on leur file 500, 600, 700, 800 000, je ne sais pas combien de subventions par an, et ne déposent pas leurs comptes, il faudra peut-être vérifier. »
Oui, c'est une bonne question à poser à tous les ministres successifs, dont pas un n'a manifestement osé soulever le capot, pour se demander « Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans » Parce qu'une entreprise, une association, une entité privée, parce que c'est quand même une entité privée, qui reçoit autant d'argent et dont les signalements nous disent qu'on est sur des capitaux propres négatifs, ça montre que c'est très très mal géré.
Il est 19h, chers auditeurs, vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, je rappelle, chaque jour, en direct de 17h30 à 19h30. Mais pour que cette émission continue, puis les autres également, bon, on a besoin de vos sous-sous, et sachez que Radio Courtoisie coche toutes les cases de l'intérêt général, et donc rassurez-vous, vous pouvez faire un don défiscalisé. Donc je rappelle, si vous donnez 100 euros, bah c'est 66 euros de l'État que l'État n'utilisera pas, et autant vous dire, vu comment il utilise l'oseille, c'est pas si mal. Vous, bah, c'est des impôts en moins que vous paierez. Alors imaginez si vous rajoutez un zéro, puis même deux, combien ça fait en moins pour l'État, combien ça fait en moins pour vous. Donc on compte sur vous, écoutez ce petit message, donnez. Vous allez sur le site de Radio Courtoisie, c'est pas compliqué, en deux clics c'est fait. Donc vous avez 30 secondes pour le faire et on se retrouve tout de suite après.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr. Et podcast.rc.fr.
Il est 19h, chers auditeurs, vous êtes donc dans Restons Courtois, l'émission de débat Radio Courtoisie. Vous savez qu'à 19h, bah, c'est la chronique de Marc Obregon. Et cher Marc, vous allez nous parler d'un film, Citizen Vigilante, comme on dit en anglais. Alors, si je traduis pas trop mal, ça doit être Citoyen Vigilant, qui est un film qu'on se glisse sous le manteau, mais pas tant que ça. Étant donné qu'Elon Musk, on a fait la promotion, il paraît que c'est un film culte qu'on veut interdire, qui est indispensable, qu'il faut voir, évidemment. Vous l'avez vu, vous n'êtes pas convaincu?
Pas vraiment, non. Connaissez-vous les Vigilantes Movies d'abord? Les Vigilantes Movies, c'est un film qui tourne souvent autour de justiciers solitaires, souvent excédés par une justice qui juge trop laxiste et qui, suite à un drame personnel, décident de régler eux-mêmes leurs comptes. Alors, c'est un genre de film qui est profondément lié à la culture américaine, son maître étalon étant Un justicier dans la ville, film culte des 70s dans lequel Charles Bronson monolithique dégomme lui-même les malfrats qui ont tué sa femme. Alors, plus près de nous, on pourrait citer également Claude Brasseur, assez crédible en flingueur dans Légitime violence de Serge Leroy. Alors, si ce genre est typique de cette décennie, c'est pour deux raisons. D'abord, parce que le western s'essouffle à l'époque et qu'il lui faut un genre de remplacement. Le Nouvel Ouest sauvage, bien sûr, ce seront les mégalopoles américaines, gangrenées par une violence endémique. C'est aussi parce que le cinéma hollywoodien se met à aimer les anti-héros à l'époque. Violents, mutiques, voire sadiques pour certains, ils incarnent cette nouvelle propension de l'homme occidental à être étranger au monde qu'il habite, à ne plus trouver sa place dans une cité devenue babélienne.
Et aujourd'hui, bah, ce genre existe toujours.
Alors en fait, il n'a jamais vraiment disparu ce genre, mais récemment, un nouveau Vigilant Movie défraie la chronique pour sa violence et son racisme supposé. C'est Citizen Vigilante du V-Ball, flingué par les critiques de gauche et porté au nu par ce qu'on appelle vulgairement la fachosphère. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le cinéaste allemand Uwe Boll, et ils ont bien raison, c'est un tâcheron cynique qui nous inflige depuis 20 ans des séries B, voire Z, conçues expressément pour un public de veaux biberonnés à la violence des jeux vidéo. Alors là, on se dit qu'Uwe Boll a voulu frapper un grand coup, et effectivement, c'est presque réussi, puisque son film fait le buzz, comme on dit. Interdit en Allemagne, propulsé par Elon Musk sur ses réseaux. Mais que raconte-t-il au juste? Alors, il raconte tout simplement comment un citoyen américain décide de faire justice lui-même en Europe après une vague de violence liée aux migrants, qui nous rappelle forcément l'ambiance actuelle. Alors, on tient assurément là un sujet en or, et on adorerait voir un vrai cinéaste s'en emparer, c'est-à-dire un cinéaste capable de faire du politique avec de l'image. Parce que là, c'est tout l'inverse. Le film est tellement mauvais, mal joué, mal filmé, d'une abyssale bêtise, qui nous fait demander parfois si c'est pas une parodie, et que tout ce qui pourrait choquer la morale, ou interroger au moins nos valeurs, retombe immédiatement, à cause d'un amateurisme constant qui frôle la bêtise crasse. Alors, on trouve quelques voix qui s'élèvent pour défendre le film. Certains estiment, tout en reconnaissant que le film est un navet, qu'il est d'utilité publique, qu'il réveille les consciences. Penser qu'un film peut réveiller les consciences en étant d'une forme aussi abyssalement nulle, c'est tout simplement nier ce qui fait la force du cinéma. Le cinéma n'a jamais existé par son message. Le cinéma n'existe que par sa forme. C'est sa forme, ses choix de mise en scène qui en font un art politique. Et jamais ce qu'il raconte.
Mais est-ce qu'on peut vraiment séparer un message politique de la façon dont il est filmé ?
Alors, on se souvient de la fameuse polémique qui avait entraîné le film Capo de Gildo Pontecorvo au sein des cahiers de cinéma. Un travelling jugé trop esthétique sur un camp de concentration avait été jugé abject par Jacques Rivette. Godard avait renchéri et avait tiré cette fameuse phrase « Tout travelling est une affaire de morale ». Alors, on pense ce qu'on veut de Jean-Luc Godard, mais cette phrase, il me semble, serait à méditer à l'heure où certains nous enjoignent à revoir Citizen Vigilante pour son contenu politique. En effet, ce film n'a aucun contenu politique, puisqu'il n'a aucune forme. On ne peut pas demander à une absence de verre d'eau de contenir de l'eau. C'est pourquoi non seulement le message politique de Citizen Vigilante est indigent, grotesque, mais qu'en plus, il dessert la cause qu'il croit défendre.
Alors pour finir, qu'est-ce qui fait un bon Vigilante Movies, comme on dit en bon français ?
Alors les bons films d'autodéfense, pour être français, sont passionnants parce qu'ils tentent de répondre, parfois avec une violence esthétisée, à l'impasse morale que constitue la justice solitaire. Puisque chaque justicier est confronté in fine au fameux adage nietzschéen « Quand tu regardes l'abîme, l'abîme aussi te regarde ». Dans tous ces films, le mouvement esthétique radical, et donc politique, est de montrer comment ces justiciers finissent eux-mêmes par être gagnés par le mal. Rien de tout ça dans ce film, du V-Ball, dans lequel le héros est une sorte d'endive blonde habillée en Prada, qui traverse le film avec l'air de se demander ce qu'il aura mangé à la cantine. Ce film n'est donc pas un film, c'est un tract à l'usage des veaux.
Et bien comme vous n'êtes pas des veaux, chers auditeurs, vous n'allez pas le regarder. Pierre-Alexandre Bouclet.
Oui, j'avais une question pour Marc Aubrégon. Est-ce qu'on pourrait dire que Gran Torino serait une sorte de variation? Alors ça ne remplit pas tous les codes, j'ai compris, mais que ce serait une sorte de variation sur ce genre de film.
Tout à fait, et d'ailleurs je pense que Clint Eastwood a toujours travaillé sur, pour filer la métaphore de son inspecteur Harry qu'il a fait connaître, et on pourrait même dire que le personnage de Gran Torino est une sorte d'inspecteur Harry vieillissant et repenti en fait.
C'est vrai qu'il ne tue pas lui-même. Quoi, voilà.
C'est vrai que l'inspecteur Harry, en tout cas le premier, on est vraiment dans la suite de Bronson avec le justicier. Mmh. Mais on voit les dommages, mais toujours de manière très fine, les dommages que crée cette, pas cette vengeance, mais cette justice, parce que le principe, c'est que le juge ne fait plus la justice, donc le flic va la faire, mais on voit que c'est pas sans conséquence. Mmh. Donc, à la différence de ce que vous nous décrivez dans ce nanar qui fait, comme on dit, le buzz sur les réseaux sociaux. Déjà que la culture à la droite, c'est pas ça, mais si on pouvait éviter de défendre les nanars, ça serait quand même pas mal. Revenons donc à nos associations de gauche. Alors, vous avez rhabillé pour 50 siècles SOS Racisme, et donc si des ministres, des députés, des sénateurs nous écoutent, chers sénateurs, chers ministres, chers députés, bah, jetez peut-être un coup d'œil ou demandez juste les comptes à SOS Racisme, vu qu'il ne le publie pas depuis 2009. Je vous propose, cher Emmanuel, de passer au CRAN, le Conseil représentatif des associations noires.
Alors celle-là, c'est ma préférée dans son genre. Donc c'est une association qui explique qu'elle est communautariste, d'entrée de jeu. Elle ne s'occupe...
Pour l'intérêt général.
Donc pour l'intérêt général, c'est un peu compliqué. Donc, je suis d'intérêt général parce que je suis communautaire. C'est intéressant. Ensuite, ce sont des militants judiciaires. Ils s'intéressent essentiellement aux campagnes de réparation, de l'esclavage. Ils ont signé l'État sur la dette d'Haïti. Ils ont réalisé beaucoup d'appels au boycott d'entreprises qui étaient soi-disant descendants d'esclavagistes, etc. Les esclavagistes sont toujours les mêmes.
C'est-à-dire,
sont les Français.
Ouais, nous.
Il n'y a que nous.
Non, mais rassurez-moi. C'est nous qui avons aboli au moins 3 fois l'esclavage. Nous sommes d'accord. Ouais. Non, c'est juste pour que je sois sûr de suivre.
Donc les esclavagistes africains sont hors de cause, hein, parce qu'ils n'ont jamais été esclavagistes, les esclavagistes africains.
Ils n'ont jamais aboli l'esclavage non plus, d'ailleurs.
Ah, ça, voilà. Et donc, y a une énorme contradiction dans les termes d'entrée de jeu, mais ensuite, ils se sont engueulés entre eux.
Ah, ça, c'est intéressant.
Ça, c'est rigolo, ça. Donc, il y avait un président qui s'appelait Louis-Georges Tin, qui a été président fondateur, quasi-fondateur du CRAN.
Oui.
Il est resté un certain temps. Il a manifestement dû prendre des mauvaises habitudes parce qu'il a plus ou moins été foutu dehors par son Assemblée Générale, qui en a lié un deuxième, V2, qui a fait ouvrir une enquête du parquet quand même, hein, sur ce qu'il a trouvé dans les comptes. Il a retrouvé notamment alors, ce qu'on a appelé pudiquement des irrégularités comptables.
Qu'est-ce qu'on trouve dedans, dans ces irrégularités, par exemple, c'est
bah, on trouve un retrait en liquide de 50 000 euros, quand même. Hein.
Ah oui,
ah oui,
ce qui est une petite irrégularité comptable sur un budget. Le budget du CRAN est pas très important, et donc il payait même pas. Le pauvre président n'était pas payé. Ce qui est normalement normal, hein, parce que oui. La direction d'une association d'intérêt général doit être désintéressée.
Oui. Mais avec un retrait de 50 000 euros, le désintérêt est quand même suspect.
Oui, mais et en plus, pas de facture, pas de reçu, pas de note de frais, rien. Je prends 50 000 et je pars avec. Alors Louis Georgetin a dit, mais c'est une honte, présomption d'innocence, il a contesté, il a parlé de diffamation, il a attaqué l'autre. Donc ils se sont... donc voilà, ils s'expliquent encore au tribunal, je crois que c'est pas terminé.
C'est pas terminé.
Voilà, en attendant, le CRAN ne dépose pas non plus ses comptes, parce que pourquoi faire ?
Ce serait dommage qu'on trouve qu'il y a un retrait de 50 000 euros.
Ou plus.
Voilà, donc on trouve pas dans les données publiques. Ils émettent manifestement des reçus fiscaux, donc sur une base qui nous paraît questionnable, à nous et nos avocats, en tout cas. Et
parce que je rappelle, intérêt général, il ne faut pas que ça soit un cercle restreint.
C'est
Or,
ça.
Communauté noire, même si nos amis noirs, en tout cas ceux qui se déclarent comme tels, sont nombreux, l'intérêt général peut questionner.
C'est ça. Et donc à la fin, on se retrouve avec une fédération qui réclame des réparations à l'État, pendant que la justice de l'État s'interroge sur les comptes de la fédération.
Ah.
Il y a un côté farce un peu là-dedans. Mmh. Celle-là, c'est un peu ma préférée.
Et je rappelle, le CRAN, il me semble, et je crois être certain, c'est ceux qui avaient voulu interdire la republication, diffusion de Tintin au Congo.
Oui.
Mais ils ont voulu déboulonner les statuts de Colbert, etc. Quoi. Mmh. Enfin, ça, oui. Ça va assez loin.
Bon, Colbert, je m'en fous, mais Tintin au Congo.
Colbert, enfin.
Tintin au Congo, c'est plus ennuyant.
Ce qui est rigolo, surtout, c'est si on avait... parce qu'en fait, ce que vous venez de dire, Arthur de Vatrigan, c'est vraiment le point important, c'est le cercle restreint de personnes. C'est-à-dire que la communauté noire, aussi vaste soit-elle, ne représente pas l'intérêt général des Français, puisque par définition, ça n'est qu'une partie. Et il faut s'imaginer ce qui se passerait si on faisait un crabe, c'est-à-dire le truc des associations blanches. Mm. Je suis certain que celui qui oserait lancer le crabe ne pourrait pas faire plus d'un reçu fiscal sans se faire prendre le fisc sur le dos dans les 24 heures. Enfin, on lui dirait, c'est strictement impensable.
La préfecture refuserait le dépôt des statuts.
Oui.
Déjà.
Oui, mais déjà.
Surtout que il me semble que la France ne reconnaît pas les couleurs. En Donc plus. Déjà, le principe de dire « nous, on est noirs et on va défendre l'intérêt général en France »,
Et surtout, il faut quand même qu'il y ait parmi l'intérêt général, là, pour le coup, donc il faut l'absence de cercle restreint, mais il faut aussi, au moins, remplir une mission d'intérêt général clairement définie, qui va être, par exemple, quelque chose de philanthropique, de l'éducation, l'humanitaire ou la culture.
La culture, ils veulent interdire Tintin. La philanthropie, ils veulent buter l'État.
Oui.
Et c'est
alors,
vrai qu'un...
monsieur Tin, si c'est vrai, philanthropie, ça va. Parce que s'il fait un retrait de 50 000...
il a peut-être distribué...
C'est l'auto-philanthropie.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Bah, la générosité, bien compris. La charité,
question,
bien comprise.
Comment et ça c'est dire l'intérêt général. C'est dans le cadre d'un pays. Oui, d'accord. Un pays qui est gouverné par un État. Dire attaquer l'État, c'est attaquer le pays. Donc c'est attaquer l'intérêt général. Il y a quand même un truc étrange là-dedans. Non, je parle dans les associations qui sont exclusivement
dédiées
À l'attaque de l'État.
Ce qui est très étonnant,
c'est un peu contradictoire, il me semble.
Et ça commence dès l'amont, puisque les préfectures, enfin la préfecture de police de Paris, il est quand même curieux qu'elle ait accepté... parce que vous ne pouvez pas créer une association demain matin, il faut envoyer vos statuts à la préfecture et dire « est-ce que je peux avoir un numéro ?» etc.
Oui.
Et si vous créez une association X ou Y et que vous faites une erreur, la préfecture de police de Paris vous dit « non, il manque une virgule là », etc. Mm. Le CRAN, il est passé crème.
Ouais. Mm. Il y a une série de complicités.
Pas de problème. Tu veux faire un truc d'intérêt général qui est contraire aux trois critères de la loi de l'intérêt général, pas de problème. Moi,
qui semble contraire.
Je valide. Qui semble contraire.
On voit qu'il est président, c'est pas pour rien.
Bah oui. Après, c'est moi au tribunal.
Mais donc, je reprécise, pour l'intérêt général... alors, l'association, vous créez une association de loi de 1901, pour le coup, la préfecture doit dire oui ou non. Une fois que cette association est créée, que la préfecture a dit oui, vous n'êtes pas obligé de demander aux personnes dont c'est en partie le boulot, si vous êtes d'intérêt général ou non. Vous pouvez vous déclarer d'intérêt général, après c'est aux autres de dire bah, non, vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Donc, créer une association pour le CRAN, c'est la préfecture qui doit décider. Là, on se pose la question de comment la préfecture a pu autoriser cela. L'intérêt général, nous, de votre enquête, Emmanuel, vous démontrez qu'on peut se poser quelques questions et donc le parquet, le ministre pourrait enquêter, en tout cas demander à leurs sbires de regarder d'un peu plus près.
Et ça n'est pas le cas.
Alors, on a fait SOS Racisme, on a fait le CRAN. Actualité oblige, étant donné que je rappelle qu'une loi NIC a été votée en troisième lecture hier, la loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté. Et donc derrière cette loi, il y a une association qui s'appelle l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui depuis plusieurs dizaines d'années donc a comme objectif de faire passer cette loi. Et oui. Vous êtes, évidemment, vous êtes plongé un peu dans l'histoire et dans les comptes de cette association.
Alors, dans les comptes du fonds de dotation qu'ils ont créé, pas de l'association, parce que justement, l'association ne publie pas ses comptes.
Eux aussi. C'est une manie, chez eux, de ne pas publier les comptes.
Mais leur montage est très, très malin. Au moins, leur délégué général est courageux, parce qu'il m'a pris au téléphone et donc il a répondu à mes questions. C'est pas un spécialiste de la chose fiscale, le délégué général, puisque au début, il pensait que c'est lui qui envoyait un rescrit fiscal au fisc. En général, c'est l'inverse. Hein. Quand vous posez une question au fisc pour savoir si vous avez le droit de faire telle ou telle chose fiscalement parlant, le fisc, les impôts vous répondent et la réponse s'appelle le rescrit fiscal. Bon, lui dit, c'est nous qui avons envoyé un rescrit au fisc.
Oui.
Bon, mais au-delà de ça, ils ont un montage qui est assez bizarre, qui est sur le papier très intelligent. Quand vous faites un don à l'ADMD, l'argent n'arrive pas dans les comptes de l'association, mais il arrive dans les comptes d'un fonds de dotation. Un fonds de dotation qui a 6 millions d'euros déjà d'actifs, hein, il est beau. Et le fonds de dotation, il a un énorme avantage par rapport à une association. D'abord, il ne paye pas d'impôt sur le revenu. Donc tout ce qui rentre n'est pas imposable. Alors qu'une association qui a des revenus, s'il y a un résultat positif, doit payer des impôts dessus. Fonds de dotation, zéro. Vachement bien. Et en plus, un fonds de dotation, vous pouvez d'un côté non seulement émettre des reçus fiscaux s'il est d'intérêt général, et de l'autre, récupérer quand même la TVA. Dans une association, c'est impossible. Soit vous récupérez la TVA et vous êtes taxé comme une entreprise, soit vous êtes d'intérêt général et vous payez la TVA. Voilà. Un fonds de dotation, ça peut faire les deux. C'est très, très pratique.
Ah, c'est utile.
C'est très pratique.
Et surtout, ça peut recevoir des biens immobiliers, des legs, des assurances vie. C'est précieux.
C'est ça, plein de trucs. Et donc, l'ADMD. D'un côté, vous avez une association qui vous dit « Moi, je suis militant et je dépense 1 million d'euros de budget par an pour obtenir le droit à l'euthanasie. » Accessoirement, ça vous indique combien coûte une loi en France. Oui. Si l'ADMD dépense 1 million d'euros par an pendant 3 ou 4 ans et qu'elle finit par avoir sa loi, ça veut dire qu'une loi en France, ça coûte 4 millions d'euros. Et j'ai vérifié ça sur d'autres sujets.
Et ça, on est à peu près dans les mêmes sommes.
On est à peu près dans les mêmes sommes. Une loi, je pense, en France, c'est 3,5 millions. Et là, l'ADMD, on arrive à peu près à ça. Et comme elle est militante, le cercle est complètement restreint. C'est pas du tout d'intérêt général. Alors, ils nous ont dit, oui, mais non. On est quand même d'intérêt général. D'ailleurs, on envoie des rescrits. Mais le fonds, lui, il est d'intérêt général. Qu'est-ce qu'il fait, le fonds? Le fonds, il reçoit tout l'argent des dons.
Et il est au service d'une seule association qui est l'ADMD.
Et c'est ça. Et il nous reverse 96% de ce qu'il reçoit. Donc, accessoirement, c'est-à-dire qu'il est très bien géré, c'est-à-dire que ses frais de fonctionnement, c'est que 4%. On en reparlera des frais de fonctionnement sur d'autres associations où les frais de fonctionnement, ça monte à 50%, 40%.
Etc. Ah
ouais. Donc là, eux, c'est 4, donc il est très bien géré. Et donc, 96%, ça revient à l'ADMD. Et donc, il ne sert qu'une assoce, donc il n'est pas d'intérêt général. Nous pensons qu'il est questionnable, son intérêt général est questionnable, etc.
Et donc, alors, le fonds, on pose la question de l'intérêt général. Oui. L'association, vous dites, l'objectif est uniquement de faire passer une loi.
Ouais.
Et donc ça, qui a dit que faire du lobbying pour faire passer une loi n'est pas l'intérêt général? Est-ce qu'il y a une jurisprudence?
Oui, d'abord, vous n'êtes pas dans les critères de la loi.
Oui.
Et puis surtout, il y a eu un jugement au tribunal d'Amiens dans les années 2010 ou un truc comme ça, qui a expliqué une association qui disait « Mais je ne comprends pas, moi je suis militant, je dois être d'intérêt général. » Et le tribunal dit « Non. »
D'accord.
Non.
Et puis, donc il y a une jurisprudence. Voilà. Donc la DMD.
Il
n'y
a aucun doute là-dessus.
Il me semble que le sénateur Ravier...
Oui, lui, il a manifestement, il est d'accord avec nous, parce que lui, il a fait un signalement pénal, article 40, au procureur de la République pour dire qu'il y a un gros sujet avec la DMD qui émission irrégulière de reçus fiscaux. Ah oui, c'est un autre truc rigolo entre le fonds et l'association, c'est que c'est la même gouvernance.
Ah.
Or, normalement, il faut que l'un soit indépendant de l'autre.
Donc c'est compliqué.
Donc c'est compliqué d'expliquer.
Sauf
que...
s'ils sont bipolaires.
Sauf s'ils sont bipolaires. Mais donc, le fonds ne fonctionne que pour une seule assoce. D'ailleurs, c'est les mêmes patrons des deux côtés. Ah, c'est très compliqué.
Et alors, juste sur le signalement du sénateur Ravier, il y a eu des suites ?
Non, pour le moment, il n'y a aucune suite. Absolument. Mais absolument pas. Mais enfin, ça va être compliqué de classer l'affaire, quand même. C'est un peu bizarre. Si jamais le procureur s'en empare, il y a des grosses sanctions à la clé. Hein. L'ADMD pourrait être amené à être obligé de rembourser jusqu'à 3 années de dons. 3 années de dons, c'est si on. Alors, le fonds publie ses comptes, mais j'ai plus le chiffre des dons qui tombent tous les ans. Si je fais un rapprochement simple, je pense que c'est plus d'un demi-million par an. Donc s'ils doivent rembourser 3 fois un demi-million par an, c'est quand même pas mal. Hein.
Ça fait un paquet d'oseille.
Oui, et puis si jamais on s'aperçoit que ça a été fait exprès ce montage,
ouais.
On commence aussi à parler d'amende pour les dirigeants.
Ouais.
Donc ça peut aller assez loin quand même.
Ah, c'est intéressant. Ouais. Alors vous savez qu'à Radio Courtoisie, nous sommes pour la parité. Et que nous sommes uniquement, et nous sommes uniquement sur ce plateau que des hommes, et donc je vous propose qu'on parle de femmes. Et donc vous allez nous parler d'Oser le féminisme.
Oui, alors ça c'est une belle association de loi 1901, créée en 2009, reconnue d'intérêt général en 2015. Donc on pourrait se dire, chat perché, on ne peut pas les attaquer. Bon. Sauf que quand on regarde un peu, il y a quand même quelques fragilités dans l'édifice. D'abord, l'objet il est complètement militant. Complètement. Donc, ils veulent être abolitionnistes, ils veulent pénaliser les clients de la prostitution, ils veulent autoriser les PMA, etc. Et ça, c'est dans les statuts. Et donc là, on peut se poser des questions sur comment est-ce qu'un rescrit fiscal a pu arriver en leur disant « oui, vous êtes d'intérêt général » alors que leur objet est militant.
Oui.
Et que le fameux arrêt du tribunal d'Amiens était antérieur à ce rescrit fiscal. Donc soit à Bercy, il y a des gens qui délivrent des reçus fiscaux de façon un peu hâtive, mais toujours dans le même sens, soit on ne comprend pas. Alors, donc, l'objet est très restreint, donc par définition, il ne concerne pas tout le monde. Et puis surtout, leur activité principale, vous pouvez dire « je suis féministe, je vais m'occuper des femmes ». Et donc, je vais mettre en place un service de soutien, d'écoute, etc. Ça, c'est d'intérêt général. L'État dit, ça, je veux bien. Sauf qu'elles ne font rien de tout ça. Elles ne s'occupent pas des femmes, en fait. Elles s'occupent de la cause féministe, ce qui est autre chose. Typiquement, elles font du plaidoyer.
Mmh.
Toute la journée, elles font du plaidoyer. Donc, du plaidoyer, elles attaquent, vont au tribunal. On a le droit d'être un peu macho ou pas ?
Non, tant que vous le dites en français, ça va.
Enfin, nous casse les pieds. Quoi.
Ah, oui, bah ça, oui, c'est sûr que c'est les sécateurs à roupettes qui sortent de leur bouche et qu'elles l'ouvrent, donc ça, c'est évident.
Donc, cette activité militante, la jurisprudence vous explique que non, ça n'est pas d'intérêt général. Et enfin, elles ont une boutique militante.
Ah, des goodies, des...
Elles vendent des goodies, elles vendent
des casquettes.
Absolument.
Des t-shirts.
Or, quand vous êtes d'intérêt général... Ça, je sais pas, je suis pas allé voir.
Non, mais les féministes ont quand même des trucs parfois étranges. Donc,
non, mais elles vendent aussi des livres, des guides, des calendriers, ces trucs.
Alors, ils ont une association d'intérêt général a le droit d'avoir 78 000 euros de recettes commerciales par an.
Ah, moi, j'avais 80 000. 80,
oh, peut-être que ça a changé à
80 000 et 11 euros.
Et est-ce qu'on peut.
Ah, ça a peut-être évolué à 2 000 euros.
Alors, je suppose que, comme toutes les associations pleines de vertus, elles ne déposent pas leurs comptes.
Elles ne déposent pas leurs comptes.
Donc, on ne peut pas vérifier la recette commerciale.
En 2017, elles affirmaient ne pas toucher d'aide publique. Donc, si elles ne touchent pas d'aide publique, chat perché, elles peuvent ne pas déposer leurs comptes, sauf si elles touchent des dons. Et que les dons qu'elles touchent, les reçus, dépassent 153 000 euros. Voilà, si elles défiscalisent plus de 153 000 euros, c'est quand même de l'argent public, et donc, il faut déposer les comptes. Comme on n'a pas leur compte, on ne sait pas combien elles défiscalisent, on ne sait pas si elles vendent plus de 80 011 euros. Ouais.
Ah oui.
Et donc la question est posée, est-ce que c'est vraiment, si en plus elle défiscalise, est-ce que c'est toujours au contribuable de payer pour elle ?
Alors, il nous reste 2 minutes, et je m'en voudrais qu'on ne continue pas à parler de nos charmantes bonnes femmes, donc il y a également nous toutes.
comme association.
Ah oui, nous
alors
tout.
Je vous propose qu'on fasse, comment dire, un petit aperçu. Vous retrouvez une grande enquête sur l'incorrect.org, c'est en accès libre, pour que tout le monde puisse y avoir accès le plus largement. Donc racontez-nous en 1 minute 30, cher Emmanuel.
Alors, Nous Toutes, c'est une association qui a été zombie.
Ah.
Oui, c'est-à-dire qu'elle était morte, mais elle vivait encore.
C'est pratique, ça.
C'est une association qui a été créée, dont l'objet social disait je me crée du 17 au, jusqu'au 24 novembre 2018. Donc le 24 novembre 2018, elle est morte. Et ils ont continué de fonctionner jusqu'en 2023. Et donc entre 2018 et 2023, ils ont sans doute reçu, on s'en est pas sûr, parce qu'ils ne déposent pas leur compte hein, pour changer, mais ils ont peut-être reçu des dons, ils ont peut-être réalisé des opérations financières, alors qu'elles n'existaient pas. Ça, c'est pas bien, ça. Mmh. Ça, c'est pas joli. Et donc, si là aussi, s'il y a des dons qui ont été collectés, s'il y a eu des. Mais ne serait-ce que s'ils ont signé un contrat, juste n'importe quoi, ils n'avaient pas le droit. Quoi que ce soit, même un loyer, même. Vous n'existez pas, c'est fini, quoi. Donc, il y a un truc un peu bizarre dans l'histoire. Il faut reconnaître que pendant que l'association zombie était un peu zombie, il y en avait une deuxième qui existait. Et c'est sans doute elle, on pense, qui a émis les reçus fiscaux. Et donc elle s'était déclarée comme « Moi, je vais aider et secours aux victimes des femmes de violence, je vais m'occuper d'elles, je vais les recevoir, etc. » Bon, très bien. Et comme là, on était sur un dispositif dit Coluche, pour les Restos du Cœur,
ouais.
Là, la défiscalisation montait à 75%. Bien. Sauf que, en fait... Comme le site l'indique, c'est pas elles qui faisaient le job, elles orientaient les femmes vers d'autres structures qui, elles, faisaient le job. Et là, on n'est plus chez Coluche.
Alors, chers auditeurs, si vous voulez la suite et tout le détail de ce que Magouille fait, Nous Toutes, eh ben, vous allez sur le site de l'Incorrect, l'incorrect.org, tout accroché en minuscules, et vous aurez l'enquête ainsi que celle sur le cran, SOS Racisme, et puis une toute nouvelle qui est sortie aujourd'hui, qui s'appelle Orion 22, un média en ligne. Vous verrez, c'est assez croustillant. Donc, chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Demain, c'est Marc Hainaut de Valeurs Actuelles. Vendredi, ça sera
Marc Baudrier
de Boulevard Voltaire. Et lundi, donc, le président Bouclet qui reprendra ce micro avant que Richard de 16 le prenne à son tour mardi. Puis nous, donc, le mercredi qui arrivera. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.
Ça suffit maintenant.